Bonsoir, province de l'Itouri, la situation sécuritaire s'est détériorée depuis 2 semaines dans le territoire de Djougou et Mahagui, avec comme conséquence les tueries des civils, la destruction des maisons et le déplacement massif des populations, une situation causée par les attaques des groupes armés actifs dans cette région. Le dernier cas alarmant est celui de 17 personnes prises en otage et exécutées le samedi dernier à Bambou. Leurs corps ont été brûlés pour effacer les traces. Ces 3 derniers mois, environ 330 personnes ont déjà été tuées par différents groupes armés dans les territoires de Djougou et Mahagui. Et selon le président de l'Assemblée provinciale de l'Itouri, Siméon Banga, on déplore également la fermeture de plusieurs établissements scolaires, ce qui fait que plus de 18 000 élèves ne vont plus à l'école depuis le mois de janvier de l'année en cours. Une situation qui a poussé le gouvernement a dépêché depuis mardi le vice-ministre de la Défense dans l'objectif de tenter de trouver une solution pacifique à cette situation. Quelle analyse faire de cette nouvelle flambée de tueries dans la province de l'Itouri? C'est le débat de ce soir. Et pour en parler, nous serons avec John Tibassim Mbongemou, ancien deuxième vice-président du Sénat, actuellement sénateur élu de la province de l'Itouri. John Tibassim, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Également, bienvenue au Kek, bonsoir.
Oui, bonsoir, messieurs les journalistes, bonsoir aux co-débatteurs.
Merci, bienvenue au Kek. Vous êtes membre de la société civile, secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus. Et enfin, Chobert Agenonga, professeur de l'université de Kisangani, mais également université catholique du Congo, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Chobert Agenonga, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Dans la province de l'Itouri, la situation sécuritaire s'est détériorée depuis 2 semaines dans les territoires de Djougou et Mahagui, avec comme conséquence les tueries des civils, la destruction des maisons et le déplacement massif des populations, une situation causée par les attaques des groupes armés actifs dans cette région. Le dernier cas alarmant est celui de 17 personnes prises en otage et exécutées le samedi dernier à Bambou. Environ 330 personnes ont déjà été tuées par différents groupes armés dans les territoires de Djougou et Mahagui ces derniers mois. Et selon le président de l'Assemblée provinciale de l'Itouri, on déplore également la fermeture de plusieurs établissements scolaires, une situation qui a poussé le gouvernement a dépêché depuis mardi le vice-ministre de la Défense dans l'objectif de tenter de trouver une solution pacifique à cette situation. Les détails avec Guy Maté et Martial Kiza.
Bonjour Martial Kiza Biamungu.
Bonjour Guy Maté.
Qu'est-ce qui peut expliquer ces regains de violence dans ces entités en Itouri, qui est une province sous état de siège?
Selon les porte-parole de l'armée à l'Itouri, le lieutenant Gilles Ngongo, les groupes armés ont changé leur mode opératoire caractérisé par les kidnappings de certains habitants qui sont ensuite exécutés par ces hommes armés. Les organisations de la société civile attribuent cette région de sécurité au retard observé dans la mise en œuvre du processus de D2RCS, mais aussi au manque de sincérité de membres de certaines communautés dans les démarches de la restauration de la paix à l'Itouri. Mais pour le chef de bureau de la Bonisco à l'Itouri, cette situation est consécutive aux actes des représailles des groupes armés, notamment Zaïre et Codeco, enregistrés ces 2 dernières semaines dans les territoires de Djougou et une partie de Mahagui.
Et quelles sont les mesures prises par les autorités, tant civiles que militaires, pour restaurer la paix dans cette partie du pays?
En tout cas, Guy Maté, pour l'armée, toutes les approches sont mises en œuvre pour restaurer la paix à l'Ituri. Son porte-parole précise que les opérations militaires sont en cours contre les miliciens réfractaires au processus de paix. Il agite aussi les approches comme le dialogue avec les groupes armés dans le cadre du processus de Nairobi, couplé avec l'approche judiciaire pour lutter contre l'impunité dans cette province.
Merci Martial Kizabiamungu.
Merci Guy Maté.
John Tibassima Mbongemo, ancien deuxième vice-président du Sénat de la République démocratique du Congo, actuellement sénateur élu de la province de l'Ituri. Lorsque vous constatez cette flambée des violences qui revient à nouveau dans la province de l'Ituri, et lorsque vous entendez comme justification à tout ça, c'est notamment le retard pris par le processus de désarmement et réinsertion. Est-ce que, à vos yeux, c'est l'explication valable ou il y a, selon vous, d'autres motivations?
Guy, je vous remercie beaucoup. De prime abord, je voudrais présenter mes sincères condoléances aux populations de l'Ituri qui, depuis 2017, connaissent au quotidien des tueries, des destructions des biens publics et privés. Et je présente également mes condoléances à nos forces armées qui, depuis cette date-là, jusqu'aujourd'hui, dans l'exercice de leur mission de protection de la population, perdent également leur vie. Et je vous signale que le samedi passé, lorsqu'il y a eu kidnapping et lorsqu'il y a eu annonce de cette tuerie macabre que nous regrettons tous, il y a eu également, marteau a pris, un ou deux militaires qui sont tombés. Alors, je vous concède le terme d'escalade ces deux dernières semaines, mais je voudrais, à mon avis, préciser que depuis 2017 jusqu'à ce jour, l'Ituri n'a pas connu de répit. Il y a des tueries qui ont commencé à cette date-là, particulièrement dans le territoire de Ndjougou. Elles se sont étendues dans le territoire d'Irumu. Et là, des tueries se commettent par les EDF Nalu vers le sud du territoire d'Irumu et par des groupes armés locaux que vous connaissez. Alors, ensuite, n'oubliez pas que les tueries se sont étendues dans les territoires de Mahagi. Alors, à mon avis, il n'y a jamais eu de répit. Les tueries se font au quotidien. Les populations civiles sont tuées, mais aussi nos militaires perdent leur vie. Et les destructions des biens se font. À mon avis, je crois que depuis cette date-là, les autorités gouvernementales, les autorités locales, que ce soit les députés, les sénateurs, les hommes de l'Église, toutes confessions confondues, ne font qu'un seul appel aux groupes armés qu'ils cessent de tuerie, qu'ils cessent de s'attaquer aux biens de la population et même aux biens communautaires comme les églises, les écoles, les hôpitaux. Et moi, je crois que il faut que nous puissions nous remémorer tous les efforts qui ont été faits par les chefs de l'État, les autorités provinciales et tous les intervenants que je venais de citer ici. Ils passent un seul message, qu'on cesse de tuer, que les groupes armés cessent de tuer les populations civiles.
Mais John Tibassima, nous l'avons entendu, du compte-rendu de nos confrères qui ont présenté la situation tout à l'heure, entre autres raisons, sinon en tout cas la principale raison évoquée par ceux qui commettent ces actions, c'est notamment parce que les auteurs ont été identifiés, il s'agit des groupes armés évoluant en Ituri. Ces mêmes groupes armés ont été en échange avec l'État pour signaler qu'ils étaient prêts à entrer dans le processus de désarmement et donc mettre fin à ce genre de tuerie. Mais comme raison évoquée ici, la raison qui revient, c'est que il y a du retard pris dans le processus dans lequel ils étaient engagés, le processus de désarmement et réinsertion. Est-ce que, à vos yeux, cette justification est correcte ou ce serait un autre jeu caché?
Non, non, mais je crois que ce n'est pas une justification qui tient debout. Vous savez, l'avantage, comme vous le dites, c'est que ces groupes armés sont connus. Ils sont nommés. À mon avis, à ce stade-ci, étant donné que le chef de l'État, le président de la République, a été en Ituri au moins trois fois, et sur les trois fois qu'il est arrivé là-bas, à deux reprises, j'étais présent. Il n'a passé qu'un seul message, c'est de demander aux groupes armés de cesser ses activités macabres. Deuxièmement, les chefs du gouvernement, les ministres sont passés là-bas. Comme je vous ai dit, les députés, les sénateurs, et vous les journalistes, les hommes de l'Église, ne font que passer ces messages. Mais ces groupes armés qui sont connus continuent à tuer. Mais moi, ma question que je me pose, pourquoi devons-nous maintenant donner raison à ces groupes armés, entre guillemets, pour dire qu'ils continuent à faire ces tueries parce qu'il y a un programme qui est en retard. Mais si ce programme ne venait pas, ce n'est pas le problème de programme, c'est un problème de l'activisme de ces groupes armés pour des réseaux qu'ils connaissent. Ils continuent à tuer les populations. Et moi, je crois qu'il est temps, pour le moment, étant donné que les groupes armés sont connus, il faut que l'État prenne ses responsabilités et oppose à ces groupes armés les moyens régaliers qui lui reviennent.
John Tibassima, puisque, selon vous, il faut que l'État monte en puissance pour contraindre ces groupes armés, qu'est-ce que vous, en tant que sénateur ou en tant que Sénat, vous comptez faire justement pour amener l'État à réaliser ce qu'il faut réaliser, étant donné que les groupes armés ne veulent pas ou, au lieu de respecter leurs paroles données, ils reprennent encore l'activisme et les tueries?
Ici, je ne veux pas donner la position du Sénat. Le Sénat a déjà fait plusieurs recommandations au gouvernement. Mais moi, je voudrais parler en mon nom, bien entendu comme sénateur, pour dire ceci, c'est que je fais un constat. Il y a des groupes armés qui continuent à tuer, à détruire, malgré l'appel pressant des autorités gouvernementales. Étant donné que cela continue, que l'État voie quelle est la voie idoine, appropriée, en réunissant peut-être tout le monde, tous les intervenants, que si l'État va préférer la voie d'approcher ces groupes armés par une voie pacifique. Et vous l'avez dit ici, il y a un membre du gouvernement qui a été dépêché à Bounia pour rechercher par une voie pacifique la fin de ce conflit. Moi, je ne peux que m'en féliciter. Toute voie est bonne pourvu qu'on arrête les tueries. Deuxièmement, si ceux-là qui sont nommés, connus, continuent à tuer, mais écoutez, il appartient maintenant, je crois qu'il est temps que l'État prenne cette disposition.
John Tibassima, nous vous gardons dans ces débats pour le deuxième tour de table. Bienvenue Oukech, membre de la société civile, secrétaire exécutif de l'ONG Justice et Paix. Ce regain de violence est observé depuis en tout cas plus de deux mois. Il s'agit des groupes armés toujours évoluant dans la province de l'Ituri. Mais vous qui êtes de la société civile, est-ce que vous avez une idée précise de quels groupes armés il s'agit dans la reprise de ces tueries? Et est-ce que selon vous, il s'agit vraiment que des groupes armés opérationnels dans la province de l'Ituri ou ces tueries pourraient aussi être causées par d'autres acteurs?
Merci Donna. Comme vous l'avez dit, la résurgence de ces violences ici, ça remonte d'au moins trois mois. C'est pratiquement depuis début fin novembre, décembre 2022, qu'on a assisté à une résurgence de violences vraiment armées de grande envergure dans le territoire de Ndjougou et qui a embrasé aussi une partie de Mahagi. Alors, s'il faut vraiment parler de la cause pourquoi ça a repris, moi, je pense que les responsabilités sont partagées et c'est à trois niveaux. D'abord au niveau étatique, parce que il y a une grande part des institutions étatiques dans cette reprise des violences. vous allez voir qu'au niveau de l'État, même si le sénateur John Tibassima, que je salue, n'a pas voulu reconnaître que c'est une des causes, le PLDRCS est déjà en marche, mais l'opération de désarmement et de démobilisation a traîné un peu le pas. C'est aussi parmi les prétextes que ces groupes armés sont en train d'avancer dans l'opinion pour dire voilà, on avait dit voilà, les PDDSS, nous sommes prêts, nous devons venir pour intégrer les programmes, mais ça traîne.
Mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens, bienvenue Oukedj, un programme de démobilisation et réinsertion traîne et il faut ôter des vies humaines pour montrer le mécontentement?
Oui, effectivement, c'est pour dire que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas, j'ai pas bien parlé des prétextes. Cela ne veut pas justifier les tueries, mais il faut quand même qu'on accélère cette opération-là. Vous allez voir les volets stabilisation, les volets relèvement communautaire et même dialogue, ça évolue bien du côté PDDRCS, mais cette opération de désarmement a un peu pris beaucoup de temps parce qu'effectivement, il y avait des préalables. Il fallait aménager les sites, il fallait aménager les programmes d'encadrement de ces ex-combattants dans les sites. C'est ce qui a pris du temps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons appris que le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango, il est à Bounia ici en séjour. Il va visiter aujourd'hui le site de Diango qui va bientôt accueillir les ex-combattants. Ça, c'est aussi parmi les causes. Et aussi au niveau de l'état de siège. Nous sommes en plein état de siège. Et il y a effectivement la volonté de mettre fin à ces tueries. Mais il y a des conditions politiques qui sont en train de ralentir aussi les actions du gouvernement.
Lesquelles, par exemple? Oui, allez-y.
Mm-hmm. Notamment, par exemple, les processus des paix qui ont été amorcés. Il y a des groupes armés qui ont signé des engagements, des actes d'engagement unilatéraux. Il y a des communautés qui ont tenu des dialogues et ils ont pris des engagements d'embrasser les processus de paix. Il y a les processus de Nairobi qui est venu et qui est passé, Nairobi 3, tous ces conditions-là ne permettent pas vraiment de frapper les groupes armés parce que ils sont en train de donner, d'une part, la bonne foi d'embrasser le processus de paix, mais de l'autre côté, maintenant, ce qui nous surprend, ils sont en train de commettre des exactions. Et cela ne nous rassure pas.
Mais
et à deuxième lieu de responsabilité,
oui.
Il y a les groupes armés. Les groupes armés ont une grande part de responsabilité. Cher Donna, c'est paradoxal. On ne peut pas comprendre les groupes armés qui ont signé les actes unilatéraux d'engagement pour dire, voilà, nous cessons avec les hostilités, nous acceptons les processus de paix, nous embrassons les processus de paix, mais, et allez-y comprendre, juste au retour de Nairobi, s'il vous plaît, les gens sont allés parler des questions de paix à Nairobi, ils rentrent de Nairobi en novembre, et en décembre, les violences ont repris, y compris les groupes armés qui ont participé au processus de Nairobi. Ça, ce sont des questions d'hypocrisie, et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont allés dire à Nairobi. Ils sont revenus. Est-ce qu'il y a des coulisses de Nairobi qu'on ne connaît pas, des cartes qu'ils ont voulu jouer qu'on ne connaît pas? Parce que nous tous, on sait qu'à Nairobi, c'était des questions de paix, des conditions pour déposer les armes, embrasser les processus de paix, notamment les programmes PDDRCS. Mais comment justifier? Ceux qui ont participé à Nairobi, ils sont revenus encore reprendre des violences de grande envergure comme s'ils ne sont pas engagés dans les processus de paix.
Bienvenue
au Kretsch.
Bienvenue au Kretsch. Est-ce que c'est tous les groupes sans distinction qui évoluent dans la région de l'Ituri, qui commettent ces crimes, ou il y en a quelques-uns bien connus, limités, qui le font? Et si oui, quelles sont leurs vraies revendications?
Dans un premier temps, les rapports font toujours ressortir les groupes armés Codeco et Zaïre comme des principaux auteurs de ces exactions dans les territoires de Ndjougou et une partie de Mahagi. Et il y a aussi d'autres groupes armés, bon, je n'ai pas vraiment de précision par rapport à leur implication directe, mais actuellement les rapports font état de Codeco et Zaïre, qui sont vraiment très actifs dans cette résurgence de violence.
Alors, après avoir...
Les revendications, en tout cas, ce n'est pas connu. D'ailleurs, ça nous surprend parce que nous savions que, des retours de Nairobi, on devait vraiment assister à une accalmie. Cher Donald, je vous rappelle par exemple que quand Codeco avait signé l'acte d'engagement unilatéral au mois de fin mois de mai, début juin, à Pandroma, nous avons assisté à une accalmie dans le territoire de Ndjougou, et même le trafic sur la RN27 était fluide. Les gens circulaient librement, ils n'attaquaient plus les gens. Jusqu'au mois de novembre, ils sont partis à Nairobi pour le processus de Nairobi 3. Mais de retour, ils sont impliqués dans cette résurgence de violence. Jusque là, on n'a pas compris les pourquoi. Il n'y a qu'un seul qui le savent, peut-être qu'ils pourront nous le dire prochainement. Et cela nous inquiète. Parce qu'on ne sait plus est-ce que ces actes d'engagement qu'ils ont signés, c'était sincère ou c'était juste de la flatterie pour tromper la vigilance. Donc, c'est ça. Et ils sont même en train de se justifier derrière les provocations, soit disant, voilà, d'autres communautés nous provoquent et nous, nous agissons par représailles, nous agissons par, par réaction. Est-ce que cela doit se justifier pendant cette période où on est vraiment en plein processus de paix? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais en troisième lieu, comme j'ai parlé de responsabilité, mm-hmm. il y a les communautés. Nous aussi, les communautés, nous avons une grande part de responsabilité. Il n'y a pas de sincérité dans la manière où les communautés se voient. On a, par exemple, organisé des dialogues intracommunautaires. Il y a trois grands dialogues intracommunautaires qui ont été réalisés ici à Ituri, notamment les dialogues intracommunautaires Bira, Lendu et récemment ici Inté de la communauté Hema. Les communautés doivent apprendre à se parler avec sincérité. Les groupes armés, parfois, sont les reflets des opinions des communautés. Et les groupes armés que nous avons cités sont des groupes armés avec des obédiences communautaires. Alors, comme ce sont des fils de communautés, ils ont l'obédience de ces communautés. Les communautés ont un grand rôle à jouer pour freiner aussi ces massacres et pour intervenir, pour limiter les dégâts. Donc, la question de sincérité dans les dialogues doit nous caractériser. C'est pourquoi nous pensons que les responsabilités sont partagées dans cette reprise de violence. Et cela doit interpeller tout le monde. Et chacun, à ce qui les concerne, doit savoir quel rôle il doit jouer pour que la paix revienne. Parce qu'à la lire où vont les choses, rien qu'à 3 mois, nous sommes à plus de 330 morts. Et ça, ce sont des cas documentés. Il y a d'autres cas de morts qui sont dans la liste noire, peut-être des personnes tuées dans des villages, dans des brousses dont on n'a pas connaissance. Ce sont des cas que nous sommes en train de déplorer au niveau de la société civile et nous, activistes des droits humains, et nous sommes en train de documenter tout ça.
Merci et bienvenue, Ouketch, membre de la société civile de l'Ituri, secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus, que nous gardons dans ce débat. Chobert Agenonga, professeur de l'université de Kisangani et université catholique du Congo, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Une flambée de violence qui refait surface dans la province de l'Ituri, même si c'est un théâtre qu'on connaît insécurisé de manière permanente. Pour vous, cette nouvelle flambée ou cette hausse de tuerie est due à quoi? Un intervenant dans ce débat, bienvenue Ouketch, a indiqué que les responsabilités étaient partagées. Est-ce que c'est aussi votre analyse? Si ces responsabilités sont partagées, sont-elles égales ou il y a une des parties prenantes qui a plus de responsabilités que l'autre et ce serait lesquelles?
Bien, je crois qu'il est important de circonscrire le contexte de ces violences qui sont survenus ces derniers jours. Donc, je voudrais rappeler que ces violences s'inscrivent dans une sorte de représailles dans la mesure où les constats qu'on a fait sur le terrain, il y a des groupes armés très actifs dans le territoire de Djougou. Et ces groupes armés, le premier, bien sûr, élève de Codeco, et le deuxième groupe, c'est celui qui est appelé le Zaïre. Et comme on l'a constaté la fin de la semaine passée, le porte-parole de Codeco, Bassa Zoupa, déplorait la mort des combattants de la Codeco, et puis il promettait une action punitive, une action, je dirais, une représaille, pratiquement une expédition punitive. Vraisemblablement, c'est ce qui a été fait. Mais je voudrais aussi en profiter pour rectifier une chose. Le kidnapping qui est survenu, je pense, le week-end passé, c'était plutôt à Bambou, mais les victimes ont été, les otages ont été exécutés à Petit. Ce n'était pas à Bambou. Mais quelles sont les causes de ces violences? Je pense qu'il est important de rappeler le fait que Bambou, situé à 45 km au nord de Bunia, est contrôlé par une unité de FADC. On n'a pas compris comment est-ce que ce kidnapping pouvait survenir là où il y a la présence des militaires de FADC. Qu'est-ce qui explique cette inaction? Qu'est-ce qui explique cette permissivité? Donc voilà la question que l'on se pose, mais à laquelle on n'a pas de réponse. En outre, je voudrais souligner le fait que le problème sécuritaire de l'Ituri relève de l'éternelle question liée notamment à la défensive de FADC. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on assiste au regain de tension, c'est depuis très très longtemps, mais le constat sur le terrain, c'est que les militaires qui étaient censés en sécuriser les biens et les populations, dans la plupart des cas, jouent plutôt la défensive plutôt que d'être offensif. C'est aussi le constat qui a été fait. Et de plus, il est important de rappeler que le militaire qui sont déployés sur le terrain, selon les constats de ces derniers jours, il semblerait que certains auraient été relevés pour renforcer les effectifs militaires dans le Nord Kivu face au M23, et cela aurait créé un vide sécuritaire profitant. Mais à cela, je voudrais aussi ajouter, selon d'autres informations, en remplacement de militaires qui ont été relevés, et de nouveaux militaires déployés sur le terrain n'auraient pas la parfaite cartographie des groupes armés. Mais dans une région totalement contrôlée par des miliciens qui sont des originaires de ce coin, qui connaissent parfaitement le territoire de Djougou et qui peuvent défier les militaires congolais. Mais je pense que ce qui est important, c'est ce qu'il ne faudrait pas ignorer en Ituri. Nous sommes en présence d'un conflit asymétrique. Autrement dit, les miliciens ont des assises communautaires. Les miliciens sont profondément enracinés au sein de leur communauté. Du coup, je pense que l'approche adaptée devrait plutôt consister et à persuader les civils, les populations ou les communautés locales de ne pas servir de ne pas pouvoir servir des lits à ces miliciens, ce qui n'a pas été le cas en des connexions.
Mais est-ce que ce n'est pas ce que fait le gouvernement depuis l'apparition de ces tueries, hein, qui datent déjà de nombreuses années, mais comme il a été souligné dans cette émission, cette nouvelle flambée de violence n'est pas que celle qui est apparue le week-end dernier. C'est au moins plus de 3 mois que l'activisme ou l'activité des groupes armés, pourtant engagés dans un processus de pacification, existe. Le gouvernement, justement par ce processus, a manifesté que l'envie était de résoudre pacifiquement en dialoguant justement avec les communautés telles qu'on venait de l'indiquer. Mais en ce moment-ci, un vice-ministre de la République a été dépêché là-bas pour aussi tenter pacifiquement de résoudre le problème. Selon vous, le gouvernement doit-il continuer toujours par cette politique de dialogue où il faut, à un moment ou à un autre, surtout maintenant, passer peut-être à la phase de force, à la phase militaire?
Non, je pense que c'est justement une entorse. La gestion sécuritaire est multidimensionnelle. On ne peut pas en gérer le conflit sur base d'une seule approche. C'est important que je puisse le rappeler. Donc la négociation n'exclut pas l'usage de la force. C'était un subterfuge. Je pense que c'est un aveu de faiblesse de la part des militaires qui sont en train de gérer la sécurité en Ituri. Et je voudrais dire clairement que le militaire ne négocie pas. La négociation, c'est pas du ressort des militaires. Les militaires ont pour mission de recourir à la force. Évidemment, pour contraindre les miliciens qui sont à la base des tueries de pouvoir cesser de tuer ou de pouvoir carrément les désarmer par force. Je pense que c'est là où se trouve le maillon faible de ce processus. Donc le militaire, parfois, ils disent non, écoutez, les parties prenantes à ces conflits sont engagées dans un processus de dialogue et du coup, lorsqu'il y a des attaques qui surviennent, les militaires disent non, nous ne réagissons pas parce que ils sont en plein processus de dialogue. Mais je pense que cet argumentaire est plutôt au médiocre. Nous sommes en présence des groupes armés réfractaires au processus de paix. Et je pense que la résolution au problème de l'Ituri ne devra pas seulement passer par l'approche dialogue. Mais on a affaire à des miliciens récidivistes, réfractaires à tous les processus qui ont été engagés. plusieurs accords ont été signés depuis 2019. Il y a eu même des actes d'engagement pour la paix qui ont été signés en 2020. Ensuite, quelqu'un le rappelait tout à l'heure, l'année passée, il y a eu un autre round de négociations à Kouandrouma qui a débouché sur un autre acte d'engagement. Donc, du coup, on est dans une sorte d'un éternellement recommencement, une histoire sans fin. Donc, l'armée doit pleinement assumer son rôle. Donc, je pense que l'État doit pleinement assumer son rôle. La résolution des conflits ne passe pas que par le dialogue. Le dialogue n'en est qu'une des approches, mais il n'en reste pas moins vrai. Il faut une montée en puissance de FARDC.
Merci.
Donc, pour contraindre tous les miliciens qui sont responsables de tueries actuellement à Ituri d'être désarmés par la force ou carrément de les contraindre à se rendre. Faute de quoi, il faudrait recourir aux moyens coercitifs pour mettre un terme à l'activisme de ces miliciens.
Merci, Chaubert Aguenonga. Nous avons donc aussi associé le public, hein, les auditeurs de Radio Okapi à réagir à notre thématique de ce soir. Et professeur Aguenonga, professeur de l'Université de Kisangani et Université catholique du Congo, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Nous allons écouter avec vous cet auditeur dit Siro, et ensuite vous allez réagir à son commentaire.
Je suis M. Ibrahim Mouakimi, j'appelle depuis la ville de Siro dans la province de Haute-Uele. Concernant les théories de Ndjougou, pour moi, la paix ne viendra que de la communauté qui habite ce territoire et non du gouvernement comme beaucoup de monde pense. Et c'est un peu difficile en Ndjougou parce que c'est un territoire occupé par une population qui se laisse manipuler et se contente à verser les sacs. Et puis notre gouvernement n'est pas en mesure de contrôler la vente et la circulation des armes. Et d'autres membres de notre gouvernement aussi et de l'armée collaborent avec les anciens.
Le professeur Chaubert Aguenonga.
La sécurité est la mission régalienne de l'État. Je pense que l'État est plutôt obligé d'assurer la sécurité des personnes et de biens. C'est totalement inadmissible que l'État ne puisse pas assumer cette mission. Je pense que ce serait totalement injustifié de dire que parce que les gens qui sont entrés les tuer, ils sont des l'Ituri et que la solution doit venir de l'Ituri. L'État a pour mission d'assurer la sécurité. Il a l'obligation d'identifier tous les acteurs de violence, donc tous ceux qui sont à la base des activités criminelles, des activités subversives, de les arrêter et de les traduire devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Bien évidemment, je suis d'accord que la solution doit aussi passer par le dialogue. Mais la question que je voudrais me poser, il faudrait combien de dialogues pour en résoudre la dynamique sécuritaire en Ituri, pour résoudre la crise sécuritaire en Ituri. C'est depuis 2017 que les violences perdurent en Ituri et le dialogue n'a pas apporté de solution durable. Mais même si dialogue il y avait, qui devrait-il dialoguer? Parce qu'on a affaire à des miliciens qui n'ont pas reçu mandat de leur communauté, qui sont en train de tuer, et ceux qui sont en train de dialoguer sont ceux qui n'ont rien à voir avec les violences en Ituri. Ce sont des paisibles citoyens qui ne sont impliqués ni de près, ni de loin dans ces violences. Je pense que ce dialogue, ça devrait plutôt impliquer les acteurs qui sont impliqués dans ces violences. Or, on est en présence des acteurs qui ont résisté pratiquement à tous les mécanismes qui ont été mis en place. Il est important de pouvoir changer de paradigme. Il est important de pouvoir changer des approches qui ont accusé leur faiblesse devant les caméras du monde entier.
Est-ce que, professeur Aguenonga, est-ce que l'État de la République démocratique du Congo, en ce moment-ci, a la possibilité de passer à la force et de contraindre les groupes armés aussi nombreux qu'il y a en ce moment-ci actifs dans la province de l'Ituri?
Mais l'État en a l'obligation. Il est hors de question de se demander si l'État est en mesure de le faire ou pas. Ou bien les institutions sont capables, ou bien les institutions ne sont pas capables. Mais à ce moment-là, il y aurait de bonnes questions à interroger, évidemment, la compétence de ceux qui sont en train de gérer le processus de paix. Mais si les responsables les responsables qui ont reçu cette mission sécuritaire en Ituri ne sont pas à la hauteur de leur tâche, je pense qu'ils reviendraient à ce qu'ils soient relevés de leurs fonctions. Et j'en profite pour dire qu'évidemment, il y a aussi un autre problème qui s'observe, c'est la déficience dans la chaîne de commandement. Parce que sur le terrain, les miliciens prennent le dessus, ils attaquent. Les militaires n'attaquent pas. Et pourquoi est-ce que le militaire n'attaque pas alors qu'ils ont été déployés justement pour assurer la sécurité et pour veiller à ce que aucun milicien ne puisse se permettre d'attaquer les civils. Donc, je crois que les institutions de la République ont l'obligation ont l'obligation d'apporter des solutions efficaces à cette crise sécuritaire. Mais s'il y a des responsables qui ne sont pas à mesure de le faire, eh bien, ils doivent être relevés de leur fonction pour incompétence notoire.
Vous l'avez dit, professeur Choubert Aguedonga, merci. Bienvenue au Ketch, membre de la société civile de la province de l'Ituri, secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus. Pour vous faire réagir, nous allons écouter avec vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Dibelaï Norbert Tatuka Djambouji, depuis la ville de Kananga au Kasaï central. La situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays est vraiment inquiétante dans la mesure où elle s'améliore du jour au jour au lieu de diminuer. Et je pense, à mon avis, que les mesures qui ont été mises en place ont montré leurs limites. Après plusieurs rencontres, après plusieurs forums au pays et à l'extérieur du pays, la situation ne fait qu'empirer. Il est temps pour ce gouvernement Samalou Kondédé de pouvoir changer de stratégie quant à ceci.
Bienvenue, Oukach.
Merci, Donna. Je salue aussi l'auditeur Norbert de Kananga. Et j'appuie son point de vue qui veut vraiment que les actuels animateurs du gouvernement Samalé puissent changer de stratégie. Effectivement, les stratégies antérieures, pour ne pas dire qu'ils ont montré leurs limites, mais n'ont pas vraiment amené au résultat escompté. Vous savez, l'Ituri, le Nord Kivu sont deux provinces sous état de siège, mais il y a des réalités complexes qui ont fait à ce que ces mesures-là ne puissent pas vraiment anéantir les groupes armés. Et nous pensons que c'est une matière à réflexion, surtout pour l'actuel ministre de la Défense, qui doit prendre cette question très au sérieux. Et comme nous le disons, nous aussi, nous avons une grande part de responsabilité, chacun ce qui les concerne, pour jouer les rôles. Parce que vous savez, ces groupes armés se cachent derrière les communautés, et ça devient comme un cycle infernal. Aujourd'hui, on dialogue, on dépose les armes, demain, on reprend. Je pense qu'à chacun de jouer son rôle. Et nous pensons que tous les ingrédients sont très nécessaires ici. L'État doit jouer sa part de responsabilité. Les groupes armés doivent jouer leur rôle, d'ailleurs ce sont des grands acteurs dans cette insécurité, et aussi les communautés doivent intervenir pour vraiment couper court à ce cycle infernal des questions des groupes armés.
Puisque les communautés semblent de manière générale un peu tirer profit de l'activisme de ces groupes armés qui sont de leur obédience, comment ces communautés pourraient-elles se décider à arrêter avec ces profits auxquels ils sont associés?
Effectivement. D'ailleurs, quand vous parlez même des profits, c'est quel profit? Bien au contraire, même les propres communautés des groupes armés sont des victimes. Quand vous voyez les victimes sont des part et d'autre. Donc ça ne sert à rien de protéger quelqu'un qui vous fait du mal lui-même. Un serpent de chez vous qui vous mord vous-même, pourquoi vous allez les garder? Moi, je pense qu'il faut lui dire qu'il fait mal et ne pas les protéger. C'est un appel vraiment à la conscience de chacun. Et les conseillers sont en train d'écouter. Je pense que les choses vont changer.
Merci, bienvenue au Ketch. Merci, bienvenue au Ketch. John Tibassima, ancien deuxième vice-président du Sénat de la République démocratique du Congo, actuel sénateur élu de la province de l'Ituri. Vous aussi, nous allons vous laisser écouter cet auditeur ensuite. Nous revenons pour votre réaction.
Je suis Modeste Kassereka depuis Bounia en Ituri. Le problème sécuritaire en Ituri est, au-delà de certains tueurs de ficelles en cravate cachée, dû à la complaisance des services de sécurité locaux, mais aussi à la négligence des autorités de Kinshasa qui ne tiennent pas compte des observations et recommandations de la société civile. Il faut noter qu'il n'y a aucune opération militaire contre les groupes armés, dits acteurs au processus de paix.
John Tibassima.
Merci beaucoup. Je voudrais... Tantôt, j'ai été interrompu par un appel. Je m'en excuse.
Nous avons compris, allez-y.
Oui, je crois qu'ici, nous revenons sur la même question. Tireur de ficelles, groupes armés, communautés, je crois qu'il faut faire un distinguo à plusieurs niveaux. Premièrement, les communautés. On parle de quelles communautés? Généralement, quand on parle de l'Ituri, on se réfère aux communautés Hema et Lindu. Mais je voudrais apporter une petite précision. C'est que lorsque, par exemple, on parle de Kilo, à Kilo, ce sont des Nyali. Ce ne sont pas des Hema, ce ne sont pas des Lindu qui sont là-bas, et à Mahagi. Lorsque les groupes armés montent à Mahagi pour tuer les populations à Lou, les populations à Lou, ce ne sont pas les Hema. Donc, je crois que, oui, les communautés existent, mais nous devons plutôt jeter notre regard vis-à-vis des groupes armés qui sont connus. Codeco, aujourd'hui FPIC, en ce qui concerne le territoire du Rumo, a fortement réduit ses activités, pour ne pas dire que a estompé ses activités, ce dont nous devons nous féliciter. Mais la problématique reste autour des groupes armés opérant principalement à partir de Njougou vers Irumu ou Mahagi.
Alors, John Tibatima, puisque nous restons dans ce cycle interminable des tueries pour lesquelles on cherche toujours des solutions, et les solutions proposées parfois ne marchent pas et les tueries reprennent, à votre avis, faut-il utiliser dialogue et bâton, ou il faut en ce moment-ci, pour mettre fin à tout ça, n'utiliser que la répression de l'État et la force?
J'y arrive. En ce qui concerne les tireurs de ficelles, les services de sécurité sont là, l'État est là, c'est question de les identifier et de les mettre à nu. Bon, maintenant, nous parlons de ce cycle de violence, de ces tueries. Vous avez raison de savoir qu'est-ce que l'État doit faire ou utiliser comme moyen. Il appartient à l'État d'apprécier. Il y a deux voies. C'est mettre les gens devant les communautés autour d'une table. Ça peut se faire pour discuter, par exemple, autour d'une autorité ecclésiastique. On peut faire ce travail-là. Mais la paix doit être imposée par l'État. Parce que les groupes armés, il y a, je crois, un intervenant qui l'a dit, ou un débatteur, ces groupes armés-là, quand ils opèrent, ils ne demandent pas l'autorisation de leur communauté. Ils ne reçoivent pas un mandat de leur communauté. Quoique certains groupes armés, comme vous le savez, sont composés par les membres d'une seule ethnie. Si tel est le cas, l'État doit mettre en place un système, une force, pour que ceux qui commettent ces crimes voient en face que voilà, si je me permets d'enlever les gens, de les tuer ou d'aller attaquer l'armée, je vais être réprimé fortement. Il va y avoir peur de la part de ces groupes et venir maintenant vers l'État. Et je crois qu'une des solutions consisterait maintenant, étant donné qu'il y a eu ce dialogue intracommunautaire qui a été fait, il faudrait que l'État aille vers les groupes armés, appeler ces groupes armés, les responsables, parce qu'ils sont connus, par toute voie, pour leur demander mais pourquoi vous tuez tel membre de communauté? Pourquoi vous enlevez les gens pour aller les tuer? Pourquoi vous détruisez les écoles, les hôpitaux? L'État peut aller vers eux, savoir pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander aux populations de Mahagi ou Njougou ou ceux qui sont dans les camps de déplacés. Et là aussi, il faut le souligner, c'est un drame humanitaire terrible. J'espère qu'on y reviendra le moment venu. Donc, on ne peut pas demander à ces populations-là d'aller rencontrer les groupes armés afin de dialoguer avec eux. Ce n'est pas possible. Il n'y a que l'État qui a l'autorité, qui a tous les moyens à sa disposition de pouvoir faire ce travail, et je crois que nous pouvons avancer vers une solution. Donc, il n'y a pas à privilégier une seule voie, il faut privilégier toutes les voies, mais principalement l'imposition de la paix par l'État et par les moyens régaliens qui lui reviennent.
Merci John Tibatima. L'émission Dialogue entre Congolais de ce soir à analyser le regain des tueries des populations dans la province de l'Ituri ces jours-ci. Merci à John Tibalsima Mongbelnou, ancien deuxième vice-président du Sénat de la RDC, actuellement sénateur élu de la province de l'Ituri, pour sa participation à cette émission. Merci également à Bienvenue Ouketch, membre de la société civile de l'Ituri, secrétaire exécutif de l'ONG Justice et Paix, tout comme à Chaubert Aguenonga, professeur de l'Université de Kisangani et Université catholique du Congo, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Merci enfin à Polydor Basunga et Guy Maté qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi, la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.